Aujourd'hui encore, nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue. Dans le précieux nom du Seigneur, hier soir, nous avons encore reçu la visite de l'actuel Bratislava, l'ancienne Pressburg. Nous vous souhaitons à vous aussi une bienvenue toute particulière, ainsi qu'à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, que vous vous sentiez bien et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Telle est notre prière à tous. Hier, j'ai fait un bref rapport, ou pas un rapport, mais une bref mention de ce qui se passe en Afrique. Nous avons ici deux frères qui étaient aussi en Afrique, l'un au Zaïre, l'autre en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est juste de leur accorder quelques minutes pour s'exprimer brièvement. Avant que les frères n'arrivent, avant que les frères viennent, je voudrais exprimer ma joie intérieure de voir les frontières s'ouvrir d'une manière si merveilleuse, en particulier vers l'Europe de l'Est. D'ici là-bas et de là-bas vers ici. Et je souhaite la bienvenue à tous, mais en particulier à tous ceux qui viennent des pays du bloc de l'Est, comme nous disons ici, qu'il s'agisse de l'Union soviétique. La Pologne a toujours été relativement libre, mais aussi en particulier de la Tchécoslovaquie. Nous envoyons ici quelques-uns de Roumanie. Dieu a simplement ouvert les portes et nous en sommes reconnaissants. Dieu a son peuple. Et si notre heure n'est pas encore venue, il nous garde. Je ne dois pas penser à ce jour en Nouvelle-Zélande. Là, j'ai vraiment pensé que c'était le terme de ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a d'abord eu un petit avion qui devait m'amener de Gisborne à Auckland et qui a dû revenir. Puis, quelques heures plus tard, un autre, un peu plus grand. Mais celui-ci est arrivé au milieu d'un orage. On n'avait jamais vu ça dans les airs. Il n'était pas assez fort pour traverser les nuages. Et il était dans cette turbulence. Parfois, ça descendait de quelques centaines de mètres d'un seul coup. Comme une pierre qui tombe et on ne voyait plus que le ciel. Puis plus que la terre. C'était incroyable. Tout le monde était entre les sièges. Il n'y avait plus personne sur les sièges. Tout le monde était partout dans tout l'avion et la plupart n'ont plus mangé, mais ont vomi. Et que voulez-vous que... Et qu'est-ce que je vais vous dire? À ce moment-là, non, je savais que la fin de toutes choses était arrivée. Et j'ai dit seulement, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Mais nous avons ensuite atterri quelque part sur l'aéroport d'un village et avec l'aide de Dieu, nous avons continué en bus. J'étais reconnaissant d'avoir quitté les airs pour revenir sur terre. Parfois, cela fait du bien de revenir sur terre, mais je pourrais en effet donner de très nombreux témoignages de ce que Dieu a fait, de sa préservation. Et le plus grand témoignage remonte à quelques années lorsque j'ai réservé mon vol pour l'Inde et aussi à Bombay, à Matras. Donc deux bombées à Matras lorsque 96 personnes se sont envolées en fait en flammes. J'étais réservé à 100% sur ce vol à la rue Lecht vers 10h du matin. J'entends la voix audible du Seigneur. Annule le voyage en Inde. Et vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé à moi. J'avais cloué toutes les salles. Et je suis un homme de parole. Si je ne peux pas tenir ma parole, ça ne marche pas. Je vaux ce que vaut ma parole et ma parole autant que moi. Et je me suis dit quelque part, peut-être une certaine fierté. Tu dois y aller, ce n'est pas possible. Les réunions sont prévues, sont annoncées. Je suis allé à la forêt et j'ai encore parlé avec le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je dois... Les réunions sont annoncées. Je suis revenu un peu avant midi et pour la deuxième fois, mais plus fort. Annule le voyage en Inde. Et plus nous avons envoyé des télégrammes, et qu'est-ce que c'était? J'ai même appelé à l'agence de presse à Düsseldorf pour me renseigner sur le numéro de vol et les détails. Et c'était le vol sur lequel j'aurais été de Bombay à Madras. Celui avec 96, avec 96 personnes juste après le décollage. L'avion a pris feu et personne n'a survécu. Personne.
Dieu est Dieu. Et Dieu est vivant. Il peut parler, il peut sauver. Dieu est Dieu. Que son nom soit loué.
Et donc nous sommes vraiment très reconnaissants au Seigneur pour tout. Les cantiques qui ont été chantés nous ont tous touché le cœur. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus. Il est seulement important que nous lisions consciemment chaque ligne que nous chantons, que nous participions et que nous ne nous contentions pas d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, j'attends avec impatience le moment où nous pourrons tous participer si pleinement à la parole, aux bénédictions, à l'action de l'Esprit, à tout, que nous ne serons pas seulement assis là, combien ont vu hier soir, comment les frères et sœurs des pays africains marchent. Donc suivent le service divin. Quelle joie, quel remerciement s'élève en eux. Hier soir, juste avant minuit, un appel est arrivé. Quelqu'un souhaitait me fortifier dans la foi et venant de l'étranger a lu le psaume 20. Et je veux le lire ici aussi, psaume 20. Le psaume 20. Et je voudrais aussi le lire ici, le psaume 20. Psaume 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il regarde d'un œil favorable tes holocaustes. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il fasse réussir tous tes projets. Oh, que mes projets soient ses projets, que ma volonté soit sa volonté, que sa parole soit ma parole. Que cela soit ainsi, nous sommes en route pour cela, je le crois. Nous faisons partie de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour jouer à la religion ou pour célébrer un service divin. Nous sommes ici pour rendre un service à Dieu, afin qu'il puisse nous servir. Donc pour rendre un culte à Dieu, afin qu'il puisse nous servir. Nous sommes ici pour avoir une rencontre avec lui. La suite se trouve ici, qu'il fasse réussir tes projets, tous tes projets. Oui, il le fera. Il l'a fait jusqu'à présent et il continuera à le faire. Alors nous nous réjouirons et pousserons des cris de joie pour ton salut. Nous déployerons les étendards au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes désirs. Il y a des gens qui ont simplement un amour intime de Dieu et qui disent, je te souhaite ce que je souhaite pour moi-même. Que Dieu te bénisse et soit avec toi. Bien-aimé, nous devons commencer à nous aimer plus profondément, à nous souhaiter plus de bien, la bénédiction de Dieu de tout notre cœur. Et ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous voulons d'abord le faire pour eux. Nous voulons mettre en pratique ce que nous avons entendu assez souvent dans la parole de Dieu. Ensuite, il est dit ici au verset 7. Ce qui m'a particulièrement réjoui. Maintenant, je sais que l'Éternel secourt son oint. Il exauce des cieux de sa sainte demeure. Il exauce des cieux de sa sainte demeure par les actes de salut puissants de sa droite. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il ne fera pas d'abord de grandes choses. Il a déjà fait de grandes choses. Il a fendu la mer Rouge. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Il a fait pleuvoir la manne du ciel. Dieu est le créateur. Dieu est le conservateur, le soutien. Dieu est sauveur. Dieu est guérisseur. Dieu est tout en tous. et s'est révélé à nous en Jésus-Christ. L'important, c'est que nous le croyons et que nous croyons et que nous en fassions l'expérience. J'avais noté le psaume 105 et j'avais déjà lu les deux versets que je voulais aussi lire en raison du fait qu'il est écrit au verset 7. Psaume 20, verset 7. « Maintenant, je sais que l'Éternel secourt son oint. » Pas un oint, mais son oint. Il y a beaucoup de oints. Il y a beaucoup de prophètes. Mais ce qui compte, c'est que Dieu puisse dire, « Celui-ci est mon prophète. Ne faites pas de mal à mes prophètes. » Si vous lisez le prophète Jérémie, ils lui ont résisté et ont dit, les prophètes ne manquent pas de paroles ni les sacrificateurs d'instructions. Et ils ont rendu la vie difficile aux vrais prophètes de Dieu. Le Sédéchia vint, se fit des cornes et dit, ce que tu as dit n'arrivera pas. Il y a toujours eu beaucoup de prophètes. Au jour d'Akab, il y avait 400 prophètes et tous prophétisaient à Coran. Donc, de toute la force de leur corps. Ainsi parle le Seigneur, tu auras de la chance, monte de la réussite, car ton projet réussira. Et un seul vient dire, j'ai vu Israël dispersé comme des brebis sans berger. Un seul prophète. Et quelle est la différence entre les 400 prophètes et l'unique? Les 400 étaient des prophètes d'Israël, mais l'un était prophète de Dieu. Il était la bouche de Dieu et il parlait au nom du Seigneur. Et quand a-t-il parlé? Après que Dieu lui eut montré qu'il voyait le Seigneur sur le trône et l'armée céleste à sa droite et à sa gauche, il entendit sur terre la conversation du Seigneur dans le ciel. L'Éternel Dieu dit, « Qui veut séduire Akab ?» Puis l'esprit de mensonge vint et dit, « Je suis le bon. » Je vais le faire. Et il dit, oui, tu es le bon. Va, toi, et deviens l'esprit de mensonge dans toutes les bouches des prophètes. Être prophète n'est pas encore tout. Vrai prophète, envoyé par Dieu, le vrai esprit de Dieu, la vraie parole de Dieu, le vrai enseignement de Dieu, tout doit concorder si cela vient de Dieu. Et nous sommes si reconnaissants au Seigneur de pouvoir être son peuple. Le troupeau de sa main, les brebis de son pâturage. Maintenant, le psaume 20, verset 7, « Je sais que l'Éternel secourt son oint. Il exauce des cieux de sa sainte demeure par les actes de salut puissant de sa droite. » Je voudrais lire dans 1 Chronique, chapitre 16, ici, nous avons à partir du verset 7 le cantique d'action de grâce de David, le cantique de louange qu'il a fait entonner. Asaph était le chef de chœur. Il chantait les grands exploits de notre Dieu. Je voudrais lire 1 Chronique, chapitre 16, du verset 19. 1 Chronique 16, verset 19. Vous n'étiez alors qu'une petite troupe, peu nombreuse et seulement des hôtes dans le pays. Il devait aller de nation en nation et d'un royaume à un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et même il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu a un peuple sur la terre. Il l'appelle son peuple. C'est son peuple. Il l'appelle mon peuple. La foule rachetée par son sang. Il n'a pas seulement une église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il n'a pas seulement dit, je leur donne une parole, mais je vous donne ma parole. Le peuple de Dieu a reçu la parole de Dieu. Bien-aimés, quelque chose doit éclater en nous. quelque chose doit se produire en nous. Car nous n'avons peut-être pas remarqué les grandes choses que Dieu a déjà faites pour nous tous. Il faut que nous le comprenions une fois pour toutes, afin qu'il ne nous arrive pas ce qui est arrivé au peuple d'Israël, en faveur duquel le Seigneur a fait de grandes choses et qui a dû dire plus tard, « Mais ils n'ont pas connu mes voies. » Puis, dans sa colère, il a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos. Son repos, sa colère, sa parole, son peuple, tout est à lui. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pas seulement d'une parole, mais de sa parole. Pas seulement une église, mais de son église. De l'église des premiers-nés qui sont inscrits ou enregistrés ou inscrits dans le ciel. Ne touchez pas à mes oins. Je voudrais lire une autre parole tirée de Deutéronome 32. Nous avons là le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et cela me bouleverse chaque fois que je pense à la manière dont le Seigneur a dirigé son peuple, l'a gardé, l'a protégé et a été avec lui d'une manière tout à fait merveilleuse. Deutéronome 32, des versets 7 à 9. Gedenke der Tage der Vorzeit. Betrachte die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Souviens-toi des jours, Deutéronome 32, 7. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années de génération en génération. Consulte ton père. Il te le fera savoir. Tes vieillards, ils te le raconteront. Lorsque le Très-Haut distribua au peuple leur héritage, lorsqu'il sépara les enfants des hommes, il fixa les territoires des tribus d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la part de l'Éternel, c'est son peuple. Car la part de l'Éternel, c'est son peuple. Verset 11. Comme l'aigle qui fait sortir sa couvée du nid et plane au-dessus de ses petits en battant des ailes, étend sur eux ses ailes, les saisit, les porte sur ses ailes. Ainsi l'Éternel seul dirigeait le peuple. Il n'y avait pas de Dieu étranger avec lui. Il le fit marcher sur les hauteurs de la terre et il mangea les produits de la plaine. On pourrait continuer à lire. Toujours de nouveau, nous trouvons les témoignages merveilleux concernant ce que Dieu a fait parmi son peuple. Nous vivons maintenant et nous lisons dans les Saintes Écritures ce que Dieu a fait dans l'Ancien et le Nouveau Testament et nous pouvons être témoins de ce qu'il fait maintenant. Plusieurs fois déjà, j'ai dit au Seigneur dans la prière, puisque tu es le même dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tu peux maintenant résumer à la fin, et de même que tu t'es révélé dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donne une double manifestation de ta puissance à la fin de ces jours pour la clôture de l'Église parmi les nations, pour l'achèvement de l'Église, l'achèvement parmi les nations et le commencement de la proclamation du peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Dieu est un grand Dieu, un Dieu glorieux. Et il fera sortir sa propre cause d'une manière merveilleuse. Néanmoins, je vais lire un peu du psaume 105. Psaume 105, là, il y a encore une pensée glorieuse que nous voulons souligner. Psaume 105, versets 14 et 15. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien-aimés, si vous lisez ce psaume dans son intégralité, nous verrons de quoi il s'agit réellement. quoi, qu'est-ce qui est dit ici plus tard? Remarquez, permettez-moi de lire encore quelques versets, le verset 16. Puis quand il fit venir la famine dans le pays et qu'il brisa tout appui de pain, alors il avait déjà envoyé un homme devant eux, Joseph, qui avait été vendu comme esclave. Une famine est arrivée dans le pays. Dieu voulait préserver son peuple au temps de la famine. Et il avait un favori, un bien-aimé, un Joseph, que ses frères avaient trahi et vendu. Et qu'ils savaient qu'ils avaient jeté dans la fosse en informant leur père qu'une bête sauvage l'avait déchiré. Ce n'était pas une bête sauvage qui a déchiré. C'était les frères devenus sauvages qui s'étaient jetés sur lui parce qu'il était spirituel et que Dieu avait un projet pour lui et avec lui. Joseph n'a peut-être pas compris ce que Dieu voulait faire de lui, mais ce sont les voies de Dieu. Il a dû passer par des chemins difficiles, très bas. Mais à la fin, Dieu a bien fait les choses. Il est sorti de la fosse et a été bien vendu. Et les gens ont peut-être encore pensé, c'était une bonne affaire, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le cas. Dieu avait un projet avec lui. Bien-aimés, si nous vivons maintenant dans les derniers jour, ce que je crois, alors toutes les choses telles qu'elles sont ont été arrangées par Dieu. Qu'il y ait des bas ou des hauts, qu'il soit, que son peuple soit compris ou non, Dieu a sa voix avec son peuple. Et si ce n'était pas le cas, nous pourrions rentrer chez nous. Mais parce qu'il en est ainsi, nous venons ici pour entendre la parole, pour entendre parler de Dieu, pour entendre Dieu nous parler et être mis en accord avec lui. Joseph n'a pas seulement souffert de la part de ses frères lorsqu'il est arrivé là-bas et que la jolie femme de Potiphar l'a vu. Il avait un beau visage, comme le disent les Écritures, et elle a voulu s'emparer de lui. Et comme cela n'a pas marché et qu'il n'a pas accepté, elle l'a calomnié en disant, regardez, voilà ce que j'ai retenu de lui ici. Elle lui a arraché sa veste en dernier moment, l'a gardée et a dit à son mari, regarde, l'homme que tu nous as amené ici voulait me faire violence. C'est elle qui voulait lui faire violence. Mais elle a retourné la situation. Veste restée, a pu dire, voilà, voici la preuve. Je l'ai entre les mêmes. Il voulait me faire violence. Voici sa veste. Vous n'avez jamais lu l'histoire? Qui lit encore la Bible? Qui lit l'Ancien Testament? Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner afin que l'homme de Dieu soit rendu parfait. Joseph a tout supporté. Il a été poursuivi en justice, jeté en prison. Ses pieds ont été placés dans un bâton. Il ne pouvait même pas bouger. Un homme de Dieu, innocent, sans avoir rien fait. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a changé le destin et a accordé la bénédiction par grâce. Dieu retourne le sort de son peuple. Il se peut que nous soyons pour un temps trahis, vendus, emprisonnés, que les circonstances nous empêchent d'agir. Mais ne vous inquiétez pas, nous portons en nous la parole vivifiante de Dieu et Dieu veillera lui-même à ce que sa parole trouve son accomplissement en son temps. Aussi certain que nous vivons maintenant à la fin de l'histoire du salut, nous serons aussi témoins des dernières choses qui en font partie. Je poursuis ici ma lecture du verset 17 ou du verset 16. Puis quand il fit venir la famine dans le pays et qu'il brisa tout appui de pain, alors il avait déjà envoyé un homme devant eux, Joseph, qui avait été vendu comme esclave. On avait serré ses pieds dans le bâton. On l'avait mis dans le fer. Jusqu'au jour où sa prophétie s'accomplit et où la parole de l'Éternel le prouva être un homme vrai. Amen. Amen. Un homme vrai. Jusqu'au jour. Jusqu'à ce jour, l'homme de Dieu était immobile. Il ne pouvait rien faire. Il était enchaîné. Il était incapable d'agir. Mais alors, cela se produisit. Et cela se produisit avec force. Et c'était pour la bénédiction de tous ceux qui lui avaient fait du mal auparavant. C'est ainsi que le Seigneur leur donne. Jésus-Christ n'a-t-il pas demandé sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » N'a-t-il pas aussi exaucé le meurtrier à côté de lui qui s'était auparavant moqué de lui et qui a repris ses esprits au dernier moment? Qu'a fait Job? A-t-il prié pour les nations ou pour ses amis qui lui ont rendu la vie difficile? Quand a-t-il prié pour ses amis et que Dieu avait dit oui, ils n'ont pas parlé avec autant de sincérité et de vérité que toi? Prie pour eux. Et lorsqu'il pria pour eux, son destin fut changé. C'est à ce moment-là que son destin fut changé. Ici, c'est Joseph que Dieu a utilisé pour garder en vie ceux qui lui avaient fait du mal pendant la famine. Pendant la famine. Telles sont les voies de Dieu. Et c'est en cela que nous sommes testés. Et c'est pour cette raison que nous passons par des épreuves. Pour savoir si nous avons, si c'est vraiment des paroles que nous faisons, ou bien que, est-ce que nous avons la vie de Dieu en nous? Si nous avons que des mots, ou si nous avons Dieu, si nous avons l'amour, si quelque chose d'autre fait partie de la mission, et que l'amour de Dieu est prouvé par nous, ni toi, ni moi, ne le pouvons, sauf si l'amour de Dieu est réellement en nous. Et alors nous aimons nos ennemis, même ceux qui ont fait en sorte que nous soyons poussés dans la fosse et que nous soyons trahis et vendus. Si un tel amour n'est pas en nous, alors nous ne sommes pas encore vraiment baptisés dans l'Esprit. Car il est écrit, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu n'a jamais commencé et ne s'arrêtera jamais. Si les croyants aiment pendant un certain temps, puis n'aiment plus, mais haïssent, et ainsi de suite, je me demande de quel point ils se sont réellement, à quel point ils sont réellement croyants. Lorsque l'amour de Dieu a été réellement répandu dans notre cœur, dans le cœur d'une personne, par le Saint-Esprit, et que le scellement a eu lieu, il s'agit alors d'un amour éternel de Dieu, qui ne peut jamais cesser et périr, là aussi, qui n'est pas dépendant des circonstances et du comportement des autres. Là aussi, il y a encore beaucoup de choses à rattraper, n'est-ce pas? Je sais que nous avons tous vécu le baptême du Saint-Esprit. J'en suis reconnaissant au Seigneur, mais je dis aussi que j'aspire à une telle plénitude de l'Esprit dans laquelle tout est vraiment contenu. Tous les dons, tous les fruits, la vie de Dieu lui-même, la nature de Jésus-Christ lui-même, la nature divine et tout ce qui en fait partie. Une communion et une liaison totale avec Dieu, un lien total avec Dieu par la parole et l'esprit, en raison de la rédemption par le sang de l'agneau. La foule rachetée par le sang croit la parole. Et lorsqu'elle croit la parole, l'esprit vient sur elle à cause de la parole pour ensuite procéder au scellement en elle. Peut-être encore rapidement, ces deux versets ici, versets 20 à 22, ou les trois. Donc, psaume 105, verset 20 maintenant. Alors le roi envoya et le fit déchaîner, le chef des peuples, et le libéra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. Qu'il domine à son gré sur ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses officiers supérieurs. Il en était ainsi au jour de Daniel et toujours et de nouveau lorsqu'il s'agit de choses divines. La sagesse et la réponse ne se trouvent pas chez les magiciens et tous les autres, mais chez les hommes de Dieu, c'est-à-dire chez Dieu lui-même. Comme Daniel le disait alors, ce n'est pas par ma propre sagesse que ces choses m'ont été accordées, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets, les mystères et il m'a fait connaître ce qui doit arriver dans les derniers temps. Dieu n'est pas seulement dans le ciel. Dieu est aussi sur la terre. Il a un peuple. Il a des hommes qu'il peut inspirer, avec lesquels il peut parler, que ce soit par la révélation de la parole ou de l'esprit. Et cela correspond toujours exactement. Je ne l'ai mentionné qu'en une seule phrase dans la présente lettre circulaire. Les prophètes et les apôtres avaient reçu les mystères révélés par Dieu, les secrets, mais jamais des cachotteries, mais une expression ouverte de ce que Dieu a fait connaître. Lorsque Paul parle de secret ou bien de mystère, il ne parle pas de tonnerre ici et de tonnerre là, mais il écrit clairement que ce qui était resté caché auparavant, il l'a maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. Et ensuite, il expose ce que Dieu a fait connaître en termes très clairs. Pas de mystère, mais une déclaration ouverte de ce qui était auparavant caché, mais qui a été révélé maintenant, parce que le temps était venu. Nous attendons la même chose de Dieu, non pas des interprétations, mais une révélation claire et véritable de la parole et de la volonté de Dieu pour notre époque. Résumons cela ici. Le Seigneur a permis cela. Afin que son peuple, a permis cela avec Joseph, afin que son peuple, le peuple d'Israël, soit maintenu en vie au temps de la famine. Il a permis à l'homme qui devait y pourvoir de prendre des chemins difficiles. Il les a parcourus, il les a entrepris. Mais Dieu avait son chemin avec lui. Il est resté en contact avec le Seigneur. Même lorsque ses pieds ont été placés dans le bâton, car c'est là, dans la prison, qu'il a eu la révélation du boulanger et de l'autre, de ce qui leur arriverait. À tous les deux, la vie de l'un sera ôtée, la vie de l'autre serait préservée. C'est encore là, dans la prison, qu'il a eu la révélation de Dieu. Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ce soit dans la fosse au lion, dans la fournaise, en prison, où que nous soyons, le Seigneur est avec nous, car c'est ainsi qu'il a promis. Et si beaucoup pouvaient le voir comme à l'époque, qui était Nebuchadnezzar ou Belshazzar, probablement, lorsqu'il regarda dans la fournaise, il s'écria, « N'avez-vous pas jeté 3 personnes dedans ?» Et ils répondirent, « Oui, 3 hommes y sont été jetés. » Et il dit, « Mais je vois 4. » J'en vois quatre. Et qu'est-ce que c'était? Le Seigneur était avec les 3 qui sont restés fidèles. Et s'il est écrit dans ma Bible qu'il n'y avait pas d'odeur de brûlé sur leurs vêtements, alors je le crois. Car c'est ce que les Saintes Écritures disent. Il n'y avait pas d'odeur de brûlé sur leurs vêtements. L'incroyant peut dire, oui, ce n'est plus vrai. Du tout pour eux. S'ils étaient dans le feu, qui me dira qu'il n'y avait pas de vêtements, qu'il n'y a pas de vêtements où est tout ce qui est brûlé, et même pas d'odeur de brûlé. Bien aimé, si le Seigneur est dans le feu, il ne se passe rien. N'a-t-il pas dit dans Isaïe 43, je marcherai avec toi. Et si tu traverses même le feu, il ne te brûlera pas. Et si tu traverses les eaux, elle ne te noiera pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et des hommes en ont fait l'expérience. Et nous pouvons témoigner que nous aussi, nous avons déjà fait l'expérience avec Dieu de manière glorieuse et variée. Le problème avec nous, c'est que nous regardons les circonstances au lieu de regarder au Seigneur. Et un auteur-compositeur chante, compte le bien que Dieu t'a fait et tu comprendras. Je ne connais pas vraiment le refrain, ce qu'il a fait pour toi et en toi. Compte le bien qu'il t'a fait et alors nous serons heureux. Alors nous devenons reconnaissants. D'un autre côté, si nous regardons les circonstances, nous sommes mal disposés et le Seigneur n'est pas content de nous. Au contraire, nous glissons dans l'incrédulité, dans le doute et nous sommes honteux de nous-mêmes et des autres. Si nous regardons vers le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir honte. Nous ne pouvons pas être confus, au contraire. Il nous relèvera alors et sera avec nous comme il l'a promis. Comme nous aurons un baptême à l'issue de ce service divin, j'aimerais encore aborder brièvement le sujet. En effet, dans Matthieu 28 et Marc 16, le Seigneur Jésus a particulièrement mis l'accent sur l'ordre de mission. Et c'est ce que nous aimerions lire maintenant très brièvement afin de montrer à ceux qui le souhaitent d'un point de vue biblique comment il faut baptiser et pourquoi on baptise de la même manière que dans les actes des apôtres. Dans Marc 16, nous lisons le verset 14 à 15 et peut-être même jusqu'au verset 16. Marc 16, verset 14 jusqu'au verset 16. Mais plus tard, il se révéla aux 11 comme ils étaient à table et il réprimanda leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après sa résurrection. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez le message du salut à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. » Jusqu'ici, cette précieuse parole. Le baptême est fait après avoir cru. Et la foi vient après la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas seulement une foi qui est nécessaire, mais la seule et unique foi salvatrice, donc qui sauve, et elle est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a apporté le salut de Dieu. Donc, la proclamation de l'Évangile doit être d'abord apportée. Le vrai Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ, le crucifié. Cette proclamation doit être d'abord apportée. Et lorsque Golgotha est révélé aux gens dans sa signification divine, à savoir que c'est là que le salut, la grâce, le pardon et le salut ont été donnés à l'humanité par Dieu et que les hommes viennent ainsi à la foi. Alors, l'étape suivante consiste à se faire baptiser sur la base du fait qu'ils sont devenus croyants, qu'ils ont cru en Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur est un peu plus clair et nous a dit ici comment nous devions baptiser. Pas seulement que nous devions baptiser, mais comment être baptisé. Matthieu 28, verset 19. Allez donc faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné. Et sachez bien que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que notre Seigneur l'a prononcé. C'est ainsi que c'est vrai. Et c'est ainsi que c'est vrai. Tant que nous irons dans le monde entier pour annoncer l'Évangile, nous avons été appelés et désignés par Dieu pour baptiser. Et ici, dans cet ordre de mission, il nous est dit que nous devons baptiser au nom dans lequel Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament comme Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la prière de notre Père, notre Seigneur dit, Père céleste, que ton nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans Jean 17, notre Seigneur dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné du milieu du monde. Du milieu du monde. Nous pourrions lire de nombreux passages bibliques qui parlent de ce nom. Ici, dans Matthieu 28, le nom n'a pas été prononcé pour que le pape et tous ne sachent pas. Dieu a fait en sorte qu'il ne soit révélé qu'aux apôtres et aux prophètes. Pierre, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a prononcé le premier sermon et le Seigneur Dieu s'est servi de lui pour établir à l'heure de la naissance de l'Église du Nouveau Testament ce qui devait être valable pour toujours, mais seulement pour l'Église du Seigneur. Tous les autres suivront leurs propres pensées, interpréteront avec leur intelligence. Mais là où il y a la révélation, il y a la même doctrine, le même enseignement que celui de Paul, de Pierre et des apôtres. Et c'est pourquoi la révélation est si nécessaire pour le peuple de Dieu. Sans révélation, le peuple s'égare. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Si je demandais maintenant, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Le Père est ce qu'il... Le Père, c'est ce qu'il est. Il est Père parce qu'il a des enfants. Je n'ai pas été Père pendant longtemps. J'ai été bien d'autres choses encore. Mais ce n'est qu'à partir du moment où j'ai eu des enfants et des filles, ou des filles et des fils et des filles, que j'ai été Père. Avant, j'étais un homme. Avant, j'étais un fils. J'ai pu être mari. J'ai été bien d'autres choses encore. Le Père est une désignation de ce qu'il est. Il est Père de tout ce qui est ses enfants. C'est écrit dans la Bible et c'est de celui que toute paternité porte le nom dans le ciel et sur la terre. Il est notre Père et il est dans les cieux. Que son nom soit sanctifié. Mais quel est son nom? Si je vous demandais quel est le nom du Saint-Esprit, les gens se déplacent de gauche à droite, s'agitent au lieu d'accepter la révélation telle qu'elle a été laissée dans les Écritures. Père, Fils et Saint-Esprit sont trois formes de révélation du Dieu Tout-Puissant. Il est Père dans les cieux. Il s'est révélé à nous sur terre dans le Fils en tant qu'Emmanuel Dieu avec nous. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a sauvés, a pardonné les péchés et a effacé les dettes, les fautes. Lisons-le dans les Actes des Apôtres, afin que tous sachent que ce n'est pas nous qui le disons, mais que cela est sorti ainsi de la bouche d'un appelé, poussé et inspiré par le Saint-Esprit. Ce que la plupart des lecteurs de la Bible oublient, c'est que le Seigneur Jésus a dit avant sa crucifixion, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et si vous lisez le chapitre 1 des Actes des Apôtres, même ici, il nous est dit directement qu'il... Je lis du verset 2. Jusqu'à ce jour, donc acte 1, verset 2, jusqu'au jour où il donna ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, puis il fut enlevé. Il a donné ses ordres à ses apôtres par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Il était avec eux 40 jours après sa résurrection. Et ensuite, par le Saint-Esprit, il a donné des ordres à ses disciples, à ses apôtres ici. Oui, comment? Par le Saint-Esprit. Et la plupart des gens ne lisent même pas cela. Un grand prédicateur pentecôtiste m'a dit que Pierre pouvait s'être trompé. Je crois ce que dit Jésus. Pierre ne s'est pas trompé. Il a simplement compris par révélation ce que Jésus avait dit, à savoir, baptisez-les dans le nom. Et ce nom lui a été révélé. Ce n'est pas Pierre qui s'est trompé. Le pape et tous ceux qui enseignent et baptisent comme lui se sont trompés et se trompent encore aujourd'hui. Que Dieu nous donne la grâce de nous repentir et de revenir à la parole, qu'il devienne important à tous de revenir à l'enseignement des apôtres. Dieu ne fera pas de compromis. Dieu ne prendra pas notre parti. Nous devons nous mettre du côté de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous atteindrons le but. Dieu n'a pas deux voix. Dieu a qu'une seule voix. Dieu n'a pas deux ou trois mille. Dieu a qu'un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul évangile. Et je lis maintenant comment le baptême a été ordonné et comment il a été accompli. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37. Lorsqu'ils entendirent cela, ce fut comme un coup de poignard dans leur cœur et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent, « Que ferons-nous, chers frères ?» Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. » Bien-aimés, il y a là aussi un point sur lequel nous ne pouvons pas nous étendre, mais nous avons parmi nous quelques frères qui ont participé à une discussion qui a eu lieu à la fin de cette semaine dans le bureau. Et une sœur qui croit vraiment complètement à côté de la plaque a dit à la fin, après que nous ayons prié ensemble, j'ai pu prier en langue pendant ce temps. Ce qu'elle croit ne peut pas être exposé ici. Bien-aimé, expliquez ici. Bien-aimé, tout doit concorder. Le parler en langue, la prophétie doivent être en accord avec la parole de Dieu. Je pense à l'incident que Frère Branham a eu quand il a parlé devant des centaines de prédicateurs à Chicago et qu'ils ont vu ce que Dieu faisait par son ministère. Beaucoup ont dit, nous venons et nous viendrons et nous nous feront tous encore une fois baptisés, donc bibliquement au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et puis il y en a eu un qui a eu une belle idée. Il a dit, consultons d'abord le Seigneur. Puis ils ont fait une heure de prière et ce même homme qui a dit, interrogeons le Seigneur, consultons le Seigneur, a ensuite parlé en langue et a interprété la propre langue et a dit, faites-vous plaisir, suffisez, soyez satisfaits avec ma grâce et avec le baptême que vous avez déjà reçu. À quoi cela a-t-il été utile? Cela a fait que du mal. Ce n'est pas par le parler en langue ou la prophétie que l'enseignement biblique est proclamé, mais par la sainte et infaillible parole de Dieu. Et tous ceux qui parlent en langue et qui prophétisent doivent se soumettre à la parole de Dieu et doivent se soumettre au nom du Seigneur. Doivent se soumettre, car tout est soumis à Dieu maintenant et à jamais et éternellement. Et il faut peut-être encore dire, celui qui ne se soumet pas à Dieu en ce tout dernier temps où le Seigneur met son Église à part, la rassemble, l'achève au jour du retour de Jésus-Christ. Nous devons être un dans la foi, dans l'enseignement, dans le baptême, dans tout. Un seul cœur, une seule âme et ainsi de suite. Celui qui ne participe pas à cela se retrouvera un jour dehors. Il y a aussi ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe, n'est-ce pas? Mais qui se sont quand même retrouvés devant une porte fermée. Oui, même les lampes des insensés brûlaient des folles, pardon, suivaient, brûlaient d'une lumière vive. Ils avaient donc de l'huile, ils avaient l'Esprit Saint. Les cinq folles aussi sont allées à la rencontre de l'époux. Les cinq folles se sont aussi attendues à son retour. Mais le moment est venu où ils en ont manqué. Ils n'avaient pas de quoi se réapprovisionner. Ils se sont arrêtés au baptême de cet esprit. Ils n'ont pas continué à avancer et à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour puiser sans cesse et faire la pointe et avoir la relation avec le réservoir afin que la lumière divine puisse continuer à brûler et à briller. D'où l'invitation, revenez au Seigneur et à sa parole. N'écoutez pas ce que disent les hommes et leurs interprétations, mais faites seulement confiance au Seigneur et à sa parole. Et alors il sera avec nous et réalisera par grâce ce qu'il a promis. Vous pouvez tous le lire. Je ne le ferai pas. Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Actes chapitre 10. Verset 48, Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 4 à 5 ou 6. Je lirai peut-être Romains 6, verset 3, juste maintenant pour que vous sachiez que Paul aussi a été baptisé de la même manière que nous venons de lire dans le serment de Pierre, dans Actes des Apôtres 2, 37, 38. Romains, chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort, pas dans une formule, dans des titres, mais dans le Christ Jésus. Pierre avait dit que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est dans ce nom que Dieu s'est révélé à nous. Celui qui veut venir à Dieu doit venir au nom de Jésus, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. C'est le nom rédempteur de Dieu pour tous les rachetés. Et tous les rachetés portent ce nom. L'épouse prend le nom de l'époux. On s'étonne parfois que des évangélistes plus brillants que plus... Donc, à plus forte voix que moi ici aujourd'hui, prononce le nom de Jésus lorsqu'il chasse des démons et prie pour les malades. Alors le nom de Jésus leur vient si beau et si juste. Oh, ils le prononcent alors à toute vapeur. Mais quand on leur dit, écoutez, si ce nom signifie tant pour vous, alors faites-vous baptiser publiquement dans ce nom. Et c'est là que les cris commencent. Alors ils crient, c'est de l'hérésie. Oui, comment cela se fait-il que c'est un faux enseignement? Il n'y avait pas d'hérésie dans la prière pour les malades. Pas d'hérésie pour chasser les démons. Le nom de Jésus était si glorieux, si important et si puissant pour eux. Ils en ont fait un bel usage. Et ensuite, lorsque leur obéissance est exigée et qu'ils sont appelés à prendre une décision, c'est le début des grands cris pour se battre. Cela n'aide personne. Tout prédicateur pentecôtiste doit aussi s'incliner et se soumettre devant Dieu. Et tous ceux qui veulent subsister devant Dieu doivent s'incliner devant lui. Il n'y a pas d'autre voie. Et il faut le dire d'une fois en tout amour. C'est certes très dommage, mais toutes les dénominations ont repris les enseignements l'une des autres. Les protestants par les catholiques et les méthodistes par l'église anglicane et les autres par les luthériens et les autres par les baptistes et tout. Tout le monde a repris sans réfléchir. Nous ne pouvons pas reprendre ce qui est une tradition. Nous devons revenir à la parole originelle, à l'enseignement des apôtres. Ce n'est qu'alors que nous savons sur la base de la parole de Dieu que nous croyons correctement, que nous enseignons correctement et que nous baptisons correctement. Pour ceux qui voudraient s'engager sur une mauvaise voie, sachez que la grande déception les attend au bout de leur chemin. Dieu de ce chemin au bout de ce chemin qu'ils ont entrepris. Dieu a passé outre les temps d'ignorance, mais maintenant il ordonne à tous, à toutes les extrémités de se repentir, de se convertir au Seigneur, non pas à une église et à ses enseignements, mais au Seigneur et à sa parole. Et alors, dans l'église du Dieu vivant, rien d'autre n'est valable que sa sainte parole, annoncée par les apôtres et les prophètes, enseignée dans le christianisme primitif jusqu'à la naissance de l'église romaine. Pour ceux qui ont encore besoin d'un petit coup de pouce, il faut savoir que jusqu'à la naissance de l'église romaine, les croyants étaient baptisés tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est qu'ensuite que ce formalisme a commencé et que le nom et la signification du nom se sont perdus. Merci à Dieu à qui il a plu, maintenant à la fin des jours, de ramener son peuple au commencement, au même enseignement, au même baptême, à la même prédication. Jésus est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il dira aujourd'hui ce qu'il a dit alors. Et même ses serviteurs ne peuvent pas dire aujourd'hui autre chose que ce qui a été dit autrefois. Nous demandons à tous, au nom du Seigneur, en vertu de l'autorité de la parole de Dieu, que ceux qui n'ont pas encore été bibliquement baptisés au nom de Jésus-Christ saisissent aujourd'hui cette occasion. Ne demandez pas pourquoi ni comment. L'eau est là. C'est ce qu'a dit l'unique. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui s'oppose encore à mon baptême? Il a fait arrêter le chariot et il est descendu. Nous aussi, nous devons descendre du chariot. Certains ne sont plus sur le chariot, certains sont même sur le cheval qui tire le chariot. Les deux doivent descendre. Tous doivent descendre. Et ensemble, il faut entrer dans l'eau. Et alors le ciel s'ouvre vraiment. Alors viennent la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Puis vient la certitude intérieure d'avoir fait ce qui est valable et juste devant Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Loués soient tous ceux, bénis soient tous ceux qui entendent les paroles de Dieu et les mettent en pratique. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole que tu nous as donnée et laissée comme guide. Comme nous sommes reconnaissants aux actes des apôtres d'avoir mis par écrit la manière, comme nous sommes reconnaissants aux apôtres, d'avoir mis par écrit la manière dont on baptisait dans le christianisme primitif. Seigneur, bien-aimé, sois reconnaissant pour, sois remercié pour le livre saint, la Bible, pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Je te rends grâce de ce que tu révèles encore aujourd'hui par la même parole, par le même évangile, le même enseignement, la même prédication, le même baptême, et que tu conduis ton peuple de la même manière qu'au commencement. Maintenant, à la fin, Seigneur, nous te remercions également pour ce service divin, pour chaque parole, pour chaque déclaration. Et nous te prions, bénis en particulier tous nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser. Qu'ils le fassent avec une foi totale, dans la certitude que tu les as acceptés, que tu as pardonné leurs péchés et qu'ils concluent avec Dieu l'alliance d'une bonne conscience, et cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ensemble de ce que tu parles encore, de ce que tu corriges encore, de ce que tu révèles encore, de ce que tu instruis encore et de ce que tu attires à toi. Nous en remettons tous à toi et te prions, bénis-nous ensemble de la richesse de ta grâce. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.